Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est vers la Hongrie que se tournent aujourd'hui nos regards puisque nous allons évoquer des événements qui se sont déroulés en Hongrie il y a tout juste 50 ans, en octobre 1956, pour être précis. Pour évoquer ces événements d'octobre 1956, j'ai le plaisir de recevoir Henri-Christian Giraud, qui a publié aux éditions du Rocher un imposant ouvrage, 800 pages, intitulé « Le printemps en octobre, une histoire de la révolution hongroise ». Henri-Christian Giraud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Vous êtes journaliste, vous avez dirigé la rédaction du Figaro Magazine, qui est l'hebdomadaire du journal quotidien français Le Figaro. Henri-Christian Giraud, lorsque l'on regarde les ouvrages que vous avez publiés, on remarque que vous êtes déjà penché sur le communisme puisque vous êtes l'auteur de deux volumes consacrés à De Gaulle et les communistes. Ces deux volumes sont parus chez Albin Michel en 88 et 89. Le tome 1 est intitulé « L'Alliance », le tome 2 intitulé « Le piège » et ça couvre une période de 41 à 46. Mais vous avez aussi, parmi vos ouvrages, donné une réplique à l'amiral de Gaulle, c'est-à-dire le fils du général. Un mot sur ce livre, vous n'étiez pas d'accord avec ses analyses et son point de vue ?
Non, je n'étais pas d'accord car l'amiral de Gaulle a dit sur un certain nombre de points importants pour la mémoire française le contraire exact de ce que son père a dit ou écrit dans ses mémoires. Donc il y avait là un point curieux, il fallait savoir qui avait raison, du père ou du fils, du général ou de l'amiral. Mais ce qui m'a amené à diriger ce livre, qui compte à peu près une dizaine de collaborateurs sur des sujets très différents, très variés, c'est que l'amiral de Gaulle s'est permis un certain nombre de jugements, pour ne pas dire de calomnie, à l'endroit d'un certain nombre de personnalités, comme par exemple Jean Monnet ou le général Giraud, mon grand-père. Et j'avoue que certains de ses propos étaient particulièrement choquants et méritaient de ce fait une sévère correction.
Revenons à la révolution hongroise, donc. C'est évidemment une insurrection, une révolte contre le communisme.
On peut même parler de révolution.
De révolution, oui. Mais qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a touché pour que vous vous penchiez pendant plusieurs années, parce que ces recherches ont certainement été longues, sur cette révolution ?
Écoutez, j'avais 12 ans lorsque ces événements hongrois ont éclaté.
Et vous étiez à Paris ?
Non, j'étais en Algérie, j'étais à Tlemcen à l'époque. Et nous en avions connaissance, évidemment, uniquement par la radio. À l'époque, la télévision était peu répandue et surtout par Paris Match. Car l'un des grands reporters de Paris Match, Jean-Pierre Pedrazzini, a couvert ces événements et a été mortellement blessé le 30 octobre sur la place de la République à Budapest. Jean-Pierre Pedrazzini était un personnage de légende déjà de son vivant. Évidemment, sa mort a donné une autre dimension encore au personnage. Et je dirais que c'est lui qui m'a donné envie d'être journaliste. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à cette histoire. La seconde raison, c'est que j'avais 12 ans, comme je l'ai dit, et que j'ai assisté avec bien d'autres à l'époque à l'héroïsme des jeunes enfants de Budapest qui ont affronté les chars soviétiques à main nue. C'est resté dans ma mémoire.
Est-ce que, pour effectuer vos recherches, vous vous êtes rendu sur place en Hongrie et quelles archives avez-vous pu trouver et qu'est-ce qui vous a justement servi de documentation ?
Ce qui m'a servi de documentation, c'est évidemment tous les livres que je collectionne sur l'affaire hongroise depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et c'est aussi les archives. C'est un livre que j'aurais dû publié plus tôt. Je voulais le publier pour le 30e anniversaire. Je ne l'avais pas fini. Puis pour le 40e anniversaire, je me suis dit, il serait peut-être temps que tu t'y mettes pour le 50e anniversaire, car sinon, il risque d'être trop tard. Et finalement, j'ai bien fait, car j'ai pu bénéficier des archives soviétiques.
qui se sont ouvertes récemment.
Assez récemment. Mais pour ce qui concerne les pays satellites, il faut savoir que Yeltsin, lorsqu'il est devenu président de la Fédération de Russie, pour se réconcilier avec les nouveaux dirigeants des ex-pays satellites, a donné à chacun, à chaque pays, un certain nombre d'archives qui le concernaient. Et par exemple, pour les Polonais, il leur a donné le fameux document qui décidait du massacre de Katyn, des 15 000 officiers polonais, document signé par les 12 membres du Politburo, dont Staline. Donc ça mettait fin à une contestation possible de la décision du Kremlin d'organiser ce massacre, que l'on a par la suite attribué souvent à l'Allemagne hitlérienne. Non, c'était l'Union soviétique qui avait perpétré ce massacre. Pour ce qui concerne les Hongrois, Yeltsin leur a donné le script de la demi-douzaine de réunions du Politburo consacrées à l'affaire hongroise. Et ce sont des archives absolument décisives.
Et effectivement, on retrouve dans votre ouvrage, Henri-Christian Giraud, les résumés de ces réunions de bureau. On a l'impression d'y être parce que votre livre, c'est un livre où vous avez mis en scène les personnages, qui sont évidemment des personnages réels, naturellement, et donc qu'on lit comme un reportage. C'est votre métier de journaliste qui ressort.
Tout à fait. Et ce qui a fait que je l'ai écrit un peu comme un reportage, c'est que je me suis appuyé essentiellement sur tous les reportages des correspondants de presse qui ont couvert ces événements. Il y avait quand même 250 reporters qui étaient à Budapest au cours de ces trois semaines de révolution.
Y en avait-il encore de vivants que vous avez pu interroger ?
Non. Oui, il y en avait de vivants, mais assez peu connus, que j'ai croisés comme ça. Mais j'ai surtout rencontré des jeunes Hongrois qui avaient vécu ces événements, qui les avaient vécus évidemment à l'époque, ils étaient très jeunes, mais j'en ai retrouvé dans mes classes successives, par exemple Georges Károly, qui est le descendant de la grande famille princière des Károly, que j'ai retrouvé en première, si je me souviens bien, à Saint-Jean-de-Béthune à Versailles.
Et cette révolution est encore très, je suppose, très présente dans la mémoire des Hongrois actuels ?
Elle le redevient, car le régime communiste qui a étouffé, évidemment, cette révolution, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il interdisait qu'on en parlât. Aujourd'hui, grâce à l'Institut 1956, un certain nombre de chercheurs hongrois, on recommence à en parler. Et les parents recommencent à répondre à leurs enfants. Mais il faut bien voir que sous le régime communiste, cette révolution était taxée de contre-révolution.
Oui.
Donc, ils s'y attachaient une espèce de honte. Et donc, les parents qui avaient vécu et participé à cette révolution préféraient se taire.
Henri-Christian Giraud, vous avez choisi de présenter donc cette révolution jour après jour. Ça commence donc le 22 octobre 1956. C'est d'abord une révolte étudiante à laquelle se sont très vite joints les ouvriers. Et il y avait un mot d'ordre, les Russes dehors. Est-ce que ces jeunes étaient anti-soviétique ou anti-communiste ? C'est peut-être la même chose, je ne sais pas, mais
non,
peut-être qu'il y a une nuance. Vous posez une nuance dans votre livre.
C'est pas tout à fait la même chose. Ils étaient d'abord anti-soviétiques, car cette présence soviétique n'est pas seulement une occupation militaire du territoire, c'est une occupation intellectuelle et spirituelle. C'est une colonisation totale, c'est une russification des mœurs et des esprits. Et donc, il arrive un moment où l'identité hongroise ressurgit et conteste cette russification. Et ça a été le propre, évidemment, des étudiants qui étaient pour beaucoup, puisque c'était des privilégiés, des enfants de la nomenclatura hongroise.
Oui, c'est ça, voilà. Un peu paradoxal.
C'est un peu paradoxal.
Alors, les forces en puissance, Henri-Christian Giraud, il y a 10 millions de Hongrois, très petits, et 22 millions de Soviétiques.
C'est un défi.
220 millions de Soviétiques.
Et la plus forte armée du monde à l'époque, en tout cas sur le continent, c'est l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée qui a vaincu le Reich, l'armée qui est rentrée à Berlin la première. Et contre cette armée, un peuple va se dresser, des femmes, des enfants, et va affronter, dès le 23 au soir dans la nuit, les 600 chars de l'armée soviétique d'occupation.
il y avait un parti communiste évidemment fort en Hongrie. Alors quelle était sa position dans cette affaire?
Il a été immédiatement balayé car il était honni par cette population. Il faut bien savoir que on disait de la Hongrie que c'est un pays qui avait un pied en prison et l'autre dans la tombe. Les chiffres ont été donnés par Beria soi-même. Entre 1951 et 1955, il y a eu plus de 1 300 000 Hongrois qui ont eu affaire à la justice et plus de la moitié, de l'ordre de 650 000, qui ont été emprisonnés. 650 000 Hongrois emprisonnés sur une population de 10 millions d'habitants.
Alors, on entendait donc dans cette révolution, les premiers jours en tout cas, mais je suppose que ça a continué, on attendait Amor Rákosi, Abba Guéreux, pardonnez-moi l'accent, quels étaient ces personnages et Hymne Nagy et Kopaski. J'ai relevé ces noms parce qu'évidemment, ils ne parlent pas beaucoup aux gens qui ne sont pas spécialistes.
Tout à fait, ce sont des noms un peu difficiles pour nous, Français, mais Erne Guéreux et Mathias Rákosi sont les deux secrétaires généraux du Parti communiste hongrois. Donc ce sont des personnages d'ailleurs détestables et détestés, et vraiment des dictateurs terribles.
Sans état d'âme.
Sans état d'âme. Mmh.
Qui font tirer sur la foule.
Hein. Ah, sans état d'âme, ils l'ont fait d'ailleurs. Alors il y a Imre Nagy, qui est un personnage assez paradoxal, qui est un apparatchik communiste, qui a fait toute la guerre d'ailleurs en Union soviétique. Donc c'est un moscovite, pour répondre à la classification de l'époque. Mais c'est un paysan d'origine protestante, et puis un bon vivant. Et donc il ne rentre pas dans le schéma classique de l'apparatchik communiste, et progressivement, il va se laisser « contaminer » entre guillemets par l'idéal et les idéaux de cette jeunesse étudiante. Il y a ensuite Sándor Kopacsi. Sándor Kopacsi est un personnage assez considérable parce que c'est le préfet de police de Budapest. Mm-hmm. C'est évidemment un apparatchik communiste et qui le reste d'ailleurs d'une certaine manière et qui va prendre le parti de la révolution et surtout qui va refuser lui de faire tirer par la police sur les étudiants.
Il a écrit ses mémoires, Kopacsi, vous le citez beaucoup.
Oui. Parce que ce sont des mémoires fondamentaux et il dit des choses très importantes, comme par exemple, il révèle la présence de Serov, le patron du KGB. Il révèle sa présence dès le 23 au matin, c'est-à-dire avant même les grandes manifestations à Budapest. Et Serov était un intime de Khrouchtchev. Et si Khrouchtchev a envoyé Serov, c'est que Khrouchtchev a immédiatement penser à réprimer ce mouvement.
Alors d'ailleurs, justement, vous posez la question dans votre ouvrage, Henri-Christian Giraud, dès le premier jour, c'est-à-dire dès le 23 octobre au matin, dès que la première fusillade éclate, des coups de feu sont tirés, mais on ne sait pas qui les a tirés, c'est-à-dire est-ce que ce sont les révolutionnaires, est-ce que c'est une provocation?
Certainement, c'est Serov, mais en effet...
Qui
a fait tirer. On a longtemps parler de l'hésitation soviétique à intervenir. En réalité, ce que nous montrent les archives soviétiques, et je suis heureux d'avoir pu le dire aussi clairement, c'est que dès le 23 au soir, avant même que le sang coule à Budapest, les premiers mots de Khrouchtchev devant le Politburo, c'est « il faut envoyer l'armée ». Et non seulement l'armée rouge, bien entendu, l'armée rouge d'occupation du territoire, mais non seulement il envoie l'armée d'occupation, mais il fait intervenir l'armée rouge qui est à l'extérieur des frontières. Et le maréchal Yukov, patron, ministre de la Défense, le vainqueur de Berlin, donne l'ordre au général Batov, qui est le patron du district des Carpates, d'intervenir à Hongrie. Et il lui dit même, il faut que vous vous dépêchiez, sinon vous risquez de vous trouver face aux Américains. Donc il y a une espèce de psychose générale des gens du Kremlin dans cette affaire.
Alors bien sûr, on ne va pas passer dans le cadre de cette émission tous les jours en revue, 24, 25 octobre jusqu'au 31, puis les premiers jours de novembre jusqu'en décembre. Mais dans votre livre, vous étudiez exactement ce qui s'est passé dans ces grands moments. Les combats furent terribles. Les images qui restent dans nos mémoires, vous l'avez dit, ce sont des enfants, des femmes, des hommes, des civils à main nue qui se battent sur des chars. Et c'est quand même d'énormes engins. Cette révolution, elle a fait des milliers de morts, mais on peut dire aujourd'hui des milliers de morts des deux côtés, des milliers de morts hongrois, mais des milliers de morts soviétiques aussi.
Oui, aussi. Alors, on ne le sait toujours pas, quel est le nombre exact des victimes, car le régime communiste a eu évidemment pour intérêt de minimiser le nombre des victimes parmi la population et au contraire d'augmenter le nombre des victimes parmi les rangs de la police politique. Bon. En réalité, le nombre des victimes doit être de l'ordre entre 5 000 et 15 000 morts, plus de 40 000 blessés, mais ce qui compte surtout, c'est qu'il y a 200 000 Hongrois qui ont préféré partir et s'exiler, choisir la liberté, comme on disait alors, mais quitter leur pays.
Mais il y a eu aussi des déportés, qui étaient des gens qui n'étaient ni en exil, ni...
D'après ce qu'a dit Cabot Lodge, qui était le délégué américain aux Nations Unies, il dit
16 000 déportés, d'après ce que vous dites.
Dès le 15 ou 16 novembre, 16 000 déportés. Alors, semble-t-il, la plupart sont rentrés, mais enfin...
Oui, mais tout de même. On a l'impression, malgré tout, qu'après le début de 1957, bien la chape de plomb, le rideau de fer, comme on disait à l'époque, bien retombe. C'est-à-dire, est-ce que cette révolution, elle a été effectivement étouffée
brutalement. Et parmi les personnalités que Khrouchtchev avait choisies pour diriger le régime communiste, il avait d'abord choisi un Gauleiter, tout simplement. C'était la personne de Ferenc Munich, qui était hongrois, certes, mais citoyen soviétique, et sans doute colonel du KGB. Et puis finalement, ils ont préféré prendre sur les conseils de Tito Janos Kadar, qui lui n'était pas citoyen soviétique, mais qui a trahi son peuple dans les grandes largeurs.
Oui. Trahison, mensonge, c'est à tous les...
Tout y est dans cette tragédie. Mais c'était un combat peut-être sans espoir, mais pas sans espérance.
Est-ce que cette révolution, Henri-Christian Giraud, a finalement commencé à sonner le glas de l'Empire soviétique? Parce que, après la révolution, certes, il y a eu des intellectuels d'Occident qui se sont prononcés contre, pour, mais il y a eu tous les côtés. Mais il est tout de même resté beaucoup d'intellectuels communistes pour défendre l'idéologie communiste.
C'est vrai, mais tout ce qui pensait dans le Parti communiste français a quand même quitté le parti à ce moment-là.
Oui.
Les Annie Kriegel, les Leroy Ladurie et les François Furet et les autres, tous les grands intellectuels que nous avons connus ou pu côtoyer, ont quitté le parti à ce moment-là. Donc il y a une espèce de dégel mental qui se produit. Pour ce qui est de la Hongrie, oui, évidemment, la chape de plomb retombe de façon très, très forte. Les parents, il est interdit aux parents même de parler de cette révolution qui, dans l'histoire officielle, évidemment, est taxée de contre-révolution. Mais à l'époque, on a pu ne pas voir, en effet, que cela sonnait le glas du parti, de l'Empire soviétique, du système soviétique. Mais je pense que ça l'était, au fond, puisque 30 ans, une trentaine d'années plus tard, quand même, l'onde de choc qui a fait s'écrouler le mur de Berlin est partie de Hongrie.
Alors c'est comme cela, en effet, que vous terminez votre ouvrage en mai 89. C'est de Budapest que sont arrachés les barbelés qui font la frontière avec l'Autriche et que s'engouffrent dedans les Allemands de l'Est.
Qui sont en vacances sur les bords du lac Balaton en profitent pour se réfugier en Hongrie et en Allemagne.
Donc on peut dire que le mur a été ébréché grâce aux Hongrois.
Ils sont au début et ils sont, je dirais, à la fin de l'effondrement de l'Empire soviétique.
Henri-Christian Giraud, je rappelle les coordonnées de votre livre de façon à ce qu'on puisse le lire. Le printemps en octobre, une histoire de la révolution hongroise, paru aux éditions du Rocher. Un autre ouvrage en cours pour bientôt?
Oui, un autre ouvrage.
Historique?
Historique sur mai 68.
Oh, alors, nous aurons beaucoup de plaisir à vous lire et beaucoup d'intérêt aussi. Merci beaucoup, à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.